Vous écoutez Aligre FM 93.1.
L'émission jazz d'Allegre FM.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est ravis de vous retrouver à nouveau. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute il y a 15 jours, je profite pour renouveler mes vœux pour cette nouvelle année. On a plein de choses à se souhaiter, mais surtout se souhaiter de la bonne musique au cours de cette année. Et d'ailleurs, on a bien pris cette bonne résolution. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux invités qui sont, comment dire, chacun à leur manière, des créateurs d'univers musicaux, d'univers presque limite fantastique ou fantasmagorique, avec leur propre façon d'appréhender les choses qui peut être avec beaucoup de tendresse, avec parfois beaucoup d'humour, avec parfois beaucoup de... La musique peut être le contraire de douce aussi. J'ai quelques exemples en tête de nos invités qui sont présents autour de la table. Et voilà, ce sont des créateurs d'univers, finalement, l'univers poétique, mais chacun dans une poésie différente. J'ai le plaisir de recevoir en face de moi notre invité de première partie, il est saxophoniste, et je vais lui laisser dire son nom.
Je suis Julien Soro et je suis ravi d'être dans cette émission Jazzland.
Alors Julien Soro, dont on vient d'entendre d'ailleurs un titre qui s'appelle Fish Eye, mais on va y revenir. Et en deuxième partie, elle a un peu son rond de serviette à chaque fois qu'elle sort un album, elle vient nous rendre visite pour notre plus grand bonheur. Notre harpiste, j'allais dire franco-américaine, non elle est française, mais comme elle vit entre les deux, pareil, je vais essayer de dire son nom.
Eh bien, je suis Isabelle Olivier et en fait, je suis résidente, mais pas citoyenne.
Pas citoyenne, oui.
Voilà,
non, oui, quand je dis franco-américaine, c'est effectivement. Mais on a la chance d'avoir Isabelle Olivier pour
trois mois en France. Avec grand plaisir. Comment, et merci de m'inviter.
Mais comment vous allez vous remettre, Isabelle, de louper lundi la cérémonie d'investiture qui vous attendait de l'autre côté de l'Atlantique?
Eh bien, je crois que je suis contente d'être à Paris pour ça.
Vous l'assurez à la télé. On est ravis de vous recevoir. Alors, est-ce que vous vous connaissiez? Est-ce que vous avez déjà joué ensemble?
Moi, j'avais entendu parler de Julien et j'ai écouté la musique en venant et je me suis régalée.
Alors moi, j'avais entendu parler d'Isabelle parce que son instrument, la harpe, est un instrument assez rare pour que je retienne les noms ou les quelques personnes qui en jouent. Et puis en plus, c'est un instrument que j'apprécie particulièrement. Là, en ce moment, on a un projet avec l'ONG et l'ensemble intercontemporain. Et on joue avec une très très bonne harpiste aussi, plus musique contemporaine, qui s'appelle Valeria Kafelnikov. Donc voilà, je la salue et c'est un instrument...
Que vous connaissez, Isabelle ?
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est un instrument que je trouve fabuleux, notamment dans un contexte improvisé et qui peut avoir des sonorités palpitantes.
Eh bien, alléluia mes frères, si ça vous permet de vous réunir, parce que finalement, Julien, vous pour l'instant, avez joué très peu avec des harpistes, et Isabelle Olivier, en reprenant votre discographie, vous n'avez pas tant si souvent que ça joué avec des saxophonistes, des clarinettistes, mais...
Eh bien, j'ai joué en fait au début.
Au début, oui, c'est
voilà.
Ça.
Voilà, ouais. C'était les frères Moutin, Sylvain Boeuf. Donc, ça a été quand même une grande aventure océan qui a duré une dizaine d'années. Et effectivement, après, j'ai joué avec Sébastien Texier dans un projet.
David Binet.
David Binet, exactement.
Mais pas tant que ça, dans votre impression, dans votre recherche d'univers sonore, de votre matière sonore, le saxophone est un peu moins présent. Donc, il vient de faire un pas vers la harpe, donc vous allez faire un pas vers
la...
Ah,
mais le saxophone, c'est le vent, c'est... Voilà, c'est clair.
On va être amené à se rencontrer en musique, c'est sûr. On a aussi Catherine Delaunay en commun.
Et donc, Catherine Delaunay, on a parlé hors antenne, puisque c'est une fabuleuse clarinettiste avec laquelle... Je crois que c'était dans Don't Worry, Be Harpy qu'elle jouait avec
vous,
Isabelle
Olivier. Elle était dans le Bixi Band, tout à fait. Et en fait, on s'était connus chez Luc Le Man... il y a vraiment longtemps, dans un projet où on était sept musiciens. Et c'est vrai que Catherine, elle est irrésistible.
Et, voilà. Très grande clarinettiste. Et Julien, on va parler d'un autre projet, Sweet Dog on the Moon, dans lequel Catherine Delaunay fait partie. Mais aussi, vous partagez l'ONG, puisque
exact.
Vous êtes tous les deux dans le même ONG.
Exact.
Alors l'ONG, c'est pas complètement le clap de fin, puisque pour préciser pour les auditrices et auditeurs, vous êtes... êtes, vous tenez le pupitre de ténor et soprano aussi.
Alto, soprano, ténor, un peu de clarinette depuis 6 ans.
À l'ONJ de Fred Morin depuis 6 ans, et comme le mandat est remis constamment, voilà, le prochain mandat sera tenu par Sylvain Hélary, et donc là vous arrivez à la fin du parcours de l'ONJ de Fred Morin.
Là on est en plein dedans, on vient de faire notre dernière répétition avant-hier pour le concert, qui sera le concert de clôture du mandat de Frédéric Morin, qui sera le 24 janvier au Conservatoire de Montreuil. Et donc ce magnifique programme qui s'appelle Jeux, J-E-E-X, les Jeux, quoi, entre l'ONJ, 8 musiciens de l'ONJ et 8 musiciens de l'ensemble intercontemporain. Donc, et puis des morceaux écrits par Andy Emler, Frédéric Morin et Sophia Avramidou aussi, compositrice plus contemporaine. Donc vraiment quelque chose de... On l'a déjà joué une fois à Châlons-en-Champagne, sur la scène nationale de Châlons-en-Champagne. C'est un très très beau programme, donc on a hâte de terminer en beauté sur ça.
Et alors, Julien, moi je me pose une question, parce que l'ONJ, c'est une aventure absolument magnifique, mm-hmm. un petit peu chronophage, mais dans le bon sens du terme, parce que vous êtes très très sollicité, vous avez donné beaucoup de concerts. Mm-hmm. Mais quand je vois le nombre de projets que vous avez et dont on va parler, vous dormez, vous avez des heures, les plages où vous dormez
Oui, je dors à peu près. Enfin, c'est surtout depuis que j'ai une petite fille qui a maintenant 5 ans que je dors un petit peu moins. Mais sinon, non, on arrive à dormir, parce que tout simplement, dans ce milieu, on démultiplie les projets, mais il est rare. Il est rare d'avoir un projet qui joue plus de 10 ou 15 dates par an, ce qui a quand même pu m'arriver, heureusement. Mais les projets que j'ai à côté de l'ONJ n'ont pas non plus énormément joué. Et des fois, j'en suis un petit peu triste, mais c'est ce qui permet aussi d'en avoir beaucoup. Et ma foi, c'est cette vie que je mène là.
Alors, vous avez... Dans les projets, il y a un projet dont on n'entend plus beaucoup parler.
Oui.
Celui que vous aviez, magnifique projet, je me tourne vers Isabelle Olivier, je ne sais pas si Isabelle, vous avez entendu, le duo de Julien Soro avec Raphaël Schwab. Donc, absolument magnifique, et duo, voire même trio, parce que parfois il y a même un dessinateur, je crois que le frère d'ailleurs.
Le frère, ça c'est les concerts dessinés, effectivement. On avait fait ça une fois. Alors figurez-vous qu'avec Raphaël, on est toujours très amis. D'ailleurs, je le salue, c'est ses 40 ans et son anniversaire aujourd'hui. Raphaël, si tu nous écoutes, bon anniversaire.
Ah non, Raphaël, on vous souhaite, on vous chante pas bon anniversaire, mais le cœur y est.
Oui, puis j'arrive à ta soirée après, Raphaël. Mais non, mais avec Raphaël, on joue encore en duo dès que l'occasion nous en est donnée. Et puis surtout, on a un très beau projet cette année qui va nous occuper après justement l'aventure de l'ONJ. On va en avril avoir deux concerts avec un orchestre symphonique où Raphaël va écrire des arrangements pour 60 musiciens, donc un orchestre symphonique.
Il en avait parlé quand il était venu à l'émission.
Et donc on aura deux concerts à l'église Saint-Marcel de ces arrangements-là avec l'orchestre Onde Plurielle, qui est un orchestre amateur semi-professionnel.
Vous étiez avec Raphaël, voilà. Vous étiez en format duo, vous avez passé orchestre symphonique.
Donc Schwab-Soro, ça va s'appeler Schwab-Soro symphonique d'ailleurs.
Vous êtes vachement creusé pour trouver le nom de votre groupe, hein, Schwab-Soro.
Ah, c'était pas, oui, c'est pas compliqué. Mais en même temps, ça, maintenant, ça nous a marqué, et puis voilà.
Je vous taquine. Alors, le projet qui nous occupe, on va parler aussi de votre projet avec Delphine Do, qu'on a eu l'occasion, la chance de voir, qui est absolument magnifique. J'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Et là, pour l'instant, on va parler de Big Fish. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu Big Fish, comment est venu ce projet et cette collaboration. Alors, le duo ténor contrebasse, ok, c'est une chose, mais là maintenant vous êtes associé avec une autre saxophoniste.
Oui, alors Léa Cheski, qui est une jeune saxophoniste que j'aime beaucoup, je l'ai rencontrée dans l'ONJ aussi, elle faisait partie de l'ONJ des jeunes, elle a remplacé dans l'ONJ des vieux, entre guillemets, et on s'est beaucoup...
Vous n'êtes pas très vieux.
Non, pas si vieux, mais bon, l'ONJ, l'ONJ des grands, quoi, et puis elle s'est... On s'est trouvé très facilement, et puis il se trouve que pendant la période du Covid, ça a été quand même très compliqué, on a eu beaucoup de concerts annulés avec l'ONJ, et puis j'ai commencé à jouer en trio avec Ariel Tessier et Gabriel Midon, on a monté un premier trio, et puis on a invité Léa à jouer en plus dans ce trio, et ce trio est devenu un quartet, il reste toujours un trio pour un petit peu pour un répertoire, puis on a écrit un répertoire aussi pour quartet. Moi j'aime beaucoup jouer dans ces contextes avec un deuxième soufflant, puis pas d'harmonie, et du coup ça nous convient bien à tous les deux, et on a réussi à faire ce disque dont on est assez fier, et à faire une belle tournée en octobre dernier. Là, on a fait 4 ou 5 concerts en 10 jours. Et c'était vraiment une très très belle expérience qui s'est très bien passée. Donc on ne demande qu'à recommencer.
Qui compose ? Là, c'est un travail collectif ?
C'est un travail collectif. Il y a des compositions de Gabriel Midon, de Léa, de moi et d'Ariel Tessier. À peu près 2 ou 3 chacun, 2 ou 3 compositions chacun, chacune. Quoi. Et ma foi, ça se passe bien.
Alors il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans ce que j'ai entendu avec Raphaël Schwab, ce que j'ai entendu avec Delphine Do, ce que j'ai entendu ici, et d'ailleurs on va passer un titre, c'est que l'humour pour vous est important en musique. J'ai remarqué ça à la fois dans la façon dont vous présentez les morceaux et même dans les titres des morceaux. C'est peut-être un point commun d'ailleurs avec Martial Solal d'ailleurs.
C'est l'humour un peu à la française. On aime bien, je crois, jouer sur les mots. On aime bien, enfin moi j'ai toujours bien aimé une forme d'absurdité. Je trouve que justement il y a une forme de poésie qui absurde, qui forcément contient un peu de l'humour. Et puis je me suis toujours bien entendu avec les gens qui étaient décalés. Et Raphaël Schwab, c'est quelqu'un de complètement décalé. Moi j'ai l'air gentil et sérieux comme ça, mais quand je vrille sur scène ou à côté, je peux devenir effectivement assez expressif. Donc ça passe aussi par l'humour.
Alors, vous connaissiez Perdido,
oui,
de Juan Tizol, c'est ça?
Oui.
Maintenant, je propose qu'on écoute Perdida. De qui? Alors
de Léa Cheseski. Voilà, elle a féminisé le Perdido, c'était quand même...
Perdida, on écoute. Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à l'YFM 93.1 en compagnie de Julien Sorreau et de, pour l'album Big Fish. Et là, on vient d'entendre Perdida, Big Fish qui est sorti sur le label...
Qui est distribué, mais sinon c'est une autoproduction. Enfin, c'est le label de Pégase, en fait, de notre collectif. On peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment un label, mais c'est produit par Pégase et Lilicon.
C'est produit par Pégase.
C'est distribué par Inouï.
Et là, on venait d'entendre le swing de Julien Sorreau et de Léa Sichelski. C'est un petit côté Lee Konitz, One March.
À la fin, on est complètement dans l'hommage à Konitz et effectivement le jazz cool, quoi.
Oh, c'est ça. Voilà. Parce que le morceau évolue effectivement et on voit que dans tout le morceau, vous avez pas envie de rester linéaire, quoi. Faut que ça surprenne, faut que ça.
Oui. En tout cas, dans ce morceau de Léa, il y a vraiment deux mondes. Il y a un 12-8 vraiment un 12-8, quoi. Et puis après, ça passe sur du swing. Et il y a ces deux parties très très distinctes.
Isabelle, Olivier.
Je ne connaissais pas du tout ce morceau et c'est vrai que ça donne trop envie de continuer. Oui. Alors, j'attends la prochaine.
Mais le prochain, on va changer complètement l'univers. Mais avant de parler de l'autre projet, est-ce que Big Fish va avoir des dates prochaines?
Oui. Vous avez
beaucoup tourné, mais annoncez-les.
Oui, on va repartir quand même cet été. Pour l'instant, il y a deux concerts, on en espère encore plus, mais on va jouer... dans l'endroit où on est en résidence avec Pégase depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle le Pavillon de la Sirène, qui est un nouvel endroit pour la musique en général à Paris, dans le 14e arrondissement. Pas que pour le jazz, mais il se trouve que Pégase y propose notamment des concerts de jazz. Il y aura aussi l'Académie de Composition de l'ONG en février. Mais là, on y joue d'ailleurs le 1er février au Pavillon de la Sirène avec le duo avec Delphine Doe, The Other Side of Water, avec Paul Jarret qui fera un solo en première partie en guitare aussi. Et ensuite, on y jouera en juin avec Delphine qui fera la sortie de son disque piano préparé, l'hommage à John Doland.
Magnifique projet.
Et puis Big Fish qui jouera... aussi en coplateau avec Delphine le 7 juin. Donc Jean-Marc, faut venir le 7 juin à la Sirène et puis tout le monde doit venir à la Sirène le 7 juin.
On a bien noté le 7 juin.
Non, mais c'est une très belle salle qui sonne très bien, il faut découvrir cet endroit.
Et des très très beaux projets. Bah, tiens, justement, on parlait de Paul Jarret, le guitariste avec qui vous partagez justement ce collectif Pégase et Lélicon. D'ailleurs, j'invite tous les auditrices et les auditeurs à se rendre sur le site de Pégase et Lélicon parce que ce collectif est composé de musiciens absolument formidables. Et donc, avec Paul Jarret et Catherine Delaunay... Pardon, avant de parler de l'autre projet, je veux juste, ça serait injuste de ne pas les citer, Big Fish, c'est donc Léa Sichelski, on a dit, à l'alto, Julien Sorreau, ténor et soprano, il faut bien rappeler aussi, Gabriel Midon à la contrebasse, et Ariel Tessier à la batterie. Vous êtes soudé avec Ariel Tessier.
Ariel Tessier, on a je ne sais plus combien de groupes ensemble, mais oui, c'est le batteur avec aussi Raphaël Körner, avec qui je joue maintenant depuis une dizaine d'années. Et c'est toujours fabuleux de jouer avec lui, c'est un batteur extraordinaire.
Et alors, vous partagez un autre groupe, Sweet Dog on the Moon.
Oui.
Voilà. Et donc, avec Paul Jarret à la guitare, Catherine Delaunay, dont on parlait tout à l'heure, à la clarinette, Émilie Lesbros à la voix et au texte. C'est elle qui écrit les textes?
Oui. Mm-hmm.
Et donc Ariel Tessier à la batterie. Et là, vous avez donc cet album Sweet Dog on the Moon qui a été un album. Alors, j'allais vous dire qui compose, mais en fait, il n'y a pas de composition.
Ou alors, on peut dire que c'est de la composition instantanée, ou alors on peut dire qu'effectivement, ce sont des improvisations et que c'est une forme de free music. Mais c'est vrai que je pense que quand on écoute le disque et les gens qui ont pu l'écouter se sentent plus proches d'une composition instantanée parce qu'on est des improvisateurs qui aimons construire quand même de la forme. Et on cherche à construire des chansons et on cherche à construire des univers et on n'est pas dans quelque chose qui cherche forcément à briser les formes habituelles. On les retrouve tout en improvisant.
En fait, moi j'ai écouté l'album, on va passer un morceau, et j'ai écouté l'album et après, en regardant les notes de pochette, j'ai vu que tout était effectivement improvisé. Vous êtes arrivé les mains dans les poches. Enfin, à part Emilie Esbros qui avait peut-être quelques petites notes, vous allez nous expliquer, mais j'étais assez sidéré de voir que c'était au départ la page blanche. Je propose qu'on écoute Life is about dancing.
Parfait.
Oh, d'ailleurs, c'est bien comme titre. Life is about dancing.
C'est pas trop mal,
on est tous d'accord. Allez. Thank you.
Dans l'espace est née la forme abstraite de la conversation brutale des mots, le sens. Une discussion blablateuse s'est créée. L'abstraction du son a créé l'historique d'un monde impeccablement brutal et doux. Ce vocabulaire s'est retrouvé dans un dictionnaire encyclopédiquement fou. Nous étions là, à parler, le soir, le matin, le midi. Et petit à petit, le mot a pris du non-sens et le non-sens a pris du mot. Bref, le vocabulaire était créé et la vie s'est déroulée comme ça. Après tout, il n'est guère besoin de discuter, mais plutôt de danser dans la vie parfois. Le sens n'est qu'une suite de mots. La diphtongue, la virgule, le point d'exclamation, mais bon, on s'en fout en fait, non ? L'intention, l'intention. L'intention, c'est l'intention. Le mouvement du corps, c'est l'intention. La transe basique. Belle, chaleureuse. La mélodie, non. Ah, l'intention, la transe.
Et oui, comme elle vient de dire la dame, sur Aligre FM, Jazzland, en compagnie surtout de Julien Sorot pour la sortie de ces deux albums. Enfin, ils sont sortis déjà depuis un petit moment. Big Fish, qu'on a entendu tout à l'heure, et Sweet Dog on the Moon. Et là, on venait d'entendre Life is About Dancing. Julien, un grand merci. Est-ce que Sweet Dog on the Moon, on va les entendre prochainement aussi ? On va vous entendre prochainement ?
Alors, franchement, Sweet Dog on the Moon, pour l'instant, on est.
Coup d'essai au Triton.
On est un peu sur la Lune. On cherche des endroits, mais la musique n'est pas facile à placer. Et puis, chacun, on a pas mal d'autres projets aussi.
Oui.
Je pense qu'on se cherche encore un petit peu, mais on a très très envie de rejouer. Voilà.
Pareil, alors là c'était produit par le Triton, non
Oui, alors ça s'est passé au Triton. Le Triton nous a accueillis en résidence, ouais. on a enregistré le disque là-bas, mais là aussi c'est un disque Pégase et Lélicon. Voilà, encore une fois, c'est le collectif qui a porté ce disque.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de ces projets. Il y a vraiment aussi ce projet qu'on a eu la chance d'entendre, un mini concert avec Alex Dutille. C'était avec Alex Dutille,
oui,
le projet avec Delphine Do, absolument magnifique.
Alors on a enregistré le disque avec Delphine. Hein, on l'a enregistré en novembre. On est en train de s'occuper.
On a été totalement séduit.
De la production de ce disque qui sortira aux alentours du mois de septembre. Donc il faut suivre l'aventure.
Revenez nous en parler. Parce
on reviendra avec Delphine.
En plus, il y a le piano solo de John Dolan qui va sortir à peu près, j'imagine, au même moment. Ça sera une bonne occasion de se reparler.
Exactement.
Julien, un grand merci.
Vous
restez.
Ah bah bien sûr,
avec
je
nous.
Reste, évidemment.
Ah bah
évidemment,
ouais.
Je suis curieux.
Parce que on a la chance de recevoir, comme on le disait tout à l'heure, Isabelle Olivier pour la sortie du 12e album. Déjà,
c'est fou, hein.
12e album et Isabelle Olivier, malheureusement les hasards du calendrier fait qu'on n'a pas pu faire cette émission avant, mais le concert de sortie de l'album, c'était hier. Alors vous aviez fait votre concert hier, donc Isabelle, impression.
La musique est quand même une chose absolument magnifique dans la vie.
Et qui le dites-vous ?
C'est ça. Et en fait, on est ressorti de cette soirée folle et de se dire, mais en fait, demain, on a envie de quoi ? Bah, on a envie de faire de la musique. Voilà.
C'est clair.
Donc oui, les années passent vite, mais je crois que l'envie, elle grandit au fur et à mesure des années.
Eh bien, je vous propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet avec un coup d'éclat, puisque le morceau s'appelle « Éclat ». Thank you. Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à l'IFM 93.1 en compagnie cette fois d'Isabelle Olivier pour la sortie de l'album Impression. Impression comme le titre de l'album, enfin de morceau de John Coltrane qu'on va entendre tout à l'heure, est sorti sur le label Rewound Echoes, c'est ça ?
Yes.
Voilà. Là, on a affaire à un vrai collectif en œuvre. Donc, avant de parler de l'album, déjà, vous pouvez nous dire qui sont les musiciens qui vous accompagnent. Il y a des musiciens qui vous sont très, très fidèles, et c'est même familialement fidèles, parce qu'ils jouent un rôle très important dans votre musique.
Oui, et dans le quatuor, en fait, il y a Joanne Renard qui n'a pas pu enregistrer le disque avec nous, mais avec qui on avait parlé de ce projet il y a 20 ans. Voilà, Joanne que j'avais rencontrée grâce à Didier Loucoud avec qui je jouais. Et qui a donc un quartet. Et donc là, c'est Mathias Naon au premier violon, Anne Le Pape au deuxième violon, Cyprien Busolini à l'alto, Jean-Philippe Feiss au violoncelle, Tom-Olivier Boeuf qui là joue de l'accordéon, mais dans le disque sur Impression, par exemple, il joue du piano, et Baptiste Thiébaud à la batterie.
Tom-Olivier Boeuf, il ne fait pas que jouer, aussi, il joue un rôle important dans la compo et dans la direction artistique, non ?
Alors, il a beaucoup travaillé sur les arrangements avec moi.
Ouais.
Il a composé un des morceaux du disque. Et puis, c'est vrai qu'on a vraiment monté le projet parce qu'on est tous les deux totalement fans des impressionnistes, tant peintres que compositeurs. Et tant de John Coltrane. Donc, c'était de se dire comment on construit un peu cet album. Et puis, sur la deuxième partie, Raphaël Olivier a pris le relais sur l'électro et sur, on va dire, la production, sur le mix, etc. Voilà.
Il y a effectivement un vrai travail collectif. Alors, on parlait, donc l'album s'appelle Impression, c'est en référence effectivement aux impressionnistes. C'est un album à écouter, mais à regarder ou à s'imaginer regarder.
Il y a surtout un film qui a été réalisé par Romain Bonnac, qu'on a présenté hier donc, au cinéma. Et effectivement, c'est une expérience sensorielle. Les gens sont ressortis totalement captivés. Parce que c'est pas illustratif, c'est voilà, les gens partent en voyage et on est dans l'écran de cinéma. Donc c'est vrai que c'est une vision vraiment des cinq sens, quoi.
Ce qui frappe beaucoup dans votre travail, Isabelle, depuis plusieurs albums, c'est qu'il y a l'idée de raconter une histoire, un fil conducteur. N'est pas dans l'addition de morceaux que vous auriez dans le tiroir. Il y a vraiment un fil conducteur. Je pense par exemple tout ce que vous avez fait sur le Baron Perché, par exemple. Il y a souvent ce fil conducteur. C'est important pour vous d'avoir cette cohérence de narrative.
Parce que en fait, ça fait sens pour moi et j'espère que ça fait sens pour les autres. C'est-à-dire que c'est un programme, on n'isole pas des morceaux, c'est vraiment un programme qui se construit au fur et à mesure et chaque pièce, c'est un morceau du puzzle en fait.
Ça veut dire que dans cette cohérence narrative autour de ce thème là des impressionnistes, les morceaux qu'on entend sur l'album sont dans l'ordre de ceux que vous jouez ou non, pas du tout? Ça, c'est
alors
pas important.
En fait, la version de l'album n'est pas la même que la version scénique, parce que effectivement la version scénique, il y a un film dans l'album, les gens écoutent, donc c'est un voyage différent et on réfléchit effectivement beaucoup à l'ordre des morceaux. Ouais.
Alors Isabelle dans les cordes,
oui.
c'est J'ai revu un petit peu votre discographie. C'est une première, non ?
Le Quatuor à cordes, c'est un rêve depuis toujours.
Ouais.
Et ce qui est très marrant pour l'anecdote, c'est qu'à 15 ans, quand j'ai suivi mon premier cours d'harmonie, mon professeur m'a fait écouter un Quatuor à cordes et je lui ai dit « mais je déteste le Quatuor à cordes
». Ah bon ?
Et il m'a dit « mais si ça se trouve, dans 20 ans, tu diras exactement le contraire ». Et 20 ans après, j'ai rencontré Joanne et je lui ai dit « mais mon rêve, c'est d'écrire pour un Quatuor à cordes ».
Est-ce que ça ne vient pas du fait que pour une harpiste de jazz, les harpistes sont souvent catalogués dans la catégorie classique ou chambriste, etc. C'est votre volonté de vous démarquer de ça et maintenant, vous n'avez plus du tout, vous avez tellement de légitimité dans le jazz que vous pouvez y aller, c'est ça, c'est...
Mon premier groupe de musique de chambre, en fait, s'appelait Impression. Donc déjà,
ah, d'accord.
Et mon maître de harpe, Pierre Jamet, était, on va dire, le harpiste de Maurice Ravel, de Debussy, de Stravinsky. Donc ça a été vraiment aussi un maître qui m'a donné l'inspiration impressionniste et qu'il avait aussi un sextet, un sextuor. avec un quatuor à cordes. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont beaucoup influencée sur comment les cordes peuvent dialoguer entre elles. Mmh. Et c'est très intéressant de mélanger des pits de violon avec des pits de violoncelle, avec des pits de harpe. Il y a vraiment des choses qui se font, ouais.
Vous citiez Maurice Ravel, mais quand on parle des impressionnistes, on pense souvent aux peintres.
Oui.
Mais il y a aussi un courant qu'on appelle l'impressionnisme musical.
Tellement.
Et je propose qu'on écoute justement une composition de Maurice Ravel.
C'est Forlan.
C'est Forlan. Hein. Mmh. On va écouter Forlan, voilà. Vous êtes bien sur Jazzland à l'IGRE FM 93.1 en compagnie d'Isabelle Olivier pour la sortie de l'album Impression paru sur le label Rewound Echoes. Là, on venait d'entendre une composition de Maurice Ravel. Donc, comment on pourrait la définir? Parce qu'on s'écarte un peu des idiomes du jazz. Est-ce que ça contribue pour vous à cet impressionnisme musical que vous voulez de votre narration, en fait?
C'est-à-dire que les compositeurs impressionnistes ont beaucoup influencé le jazz et le jazz a beaucoup influencé les compositeurs impressionnistes.
Dedans, vous mettez Ravel, Debussy, Fauré, c'est ça ?
Exactement. Oui. Et aux États-Unis, particulièrement, tous les musiciens de jazz sont influencés par tous ces compositeurs et vice-versa. C'est-à-dire que Debussy, Ravel, Fauré ont tous parlé de l'influence qu'a eu le jazz dans leur parcours musical. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas, on va dire, sectoriser. Voilà. Et du coup, pour moi, impression, c'est autant John Coltrane que Maurice Ravel. Il n'y a pas de choix à faire. C'est vraiment, les deux sont vraiment étroitement liés. Et dans mon parcours, évidemment, ça fait sens parce que j'ai pratiqué ces deux musiques depuis toujours.
Oui, c'est effectivement, vous êtes à la rencontre des deux, effectivement, donc, à travers de beaucoup de choses que vous faites, pas seulement dans les formations de jazz classique, mais aussi ailleurs. Alors, parlez-nous aussi de ce qu'est ce collectif Métamorphose, parce que vous avez ce travail que vous avez autour d'Impression, mais vous faites aussi plein de choses entre la France et les États-Unis. Métamorphose, c'est plus pour la partie française.
Voilà, en fait, aux États-Unis, maintenant, il y a une autre not-profit qui a pris le relais, qui s'appelle Culture for All, pour justement, on va dire, présenter des choses à des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la culture. Et qu'effectivement, on a commencé à faire des tournées au milieu de nulle part. L'été prochain, on va aller jouer dans des fermes. On va aller jouer dans des endroits vraiment de l'Amérique profonde. Et effectivement, c'est pas seulement à titre individuel, mais c'est aussi comment connecter avec des gens qui n'ont pas la même histoire, pas le même parcours, et qui, quelque part, reçoivent un cadeau d'avoir des musiciens comme ça qui arrivent chez eux.
Et Métamorphose ?
Alors, Métamorphose, ben, le but, justement, il y a 30 ans, quand j'ai créé cette compagnie, c'était de présenter des choses versatiles, sous toutes des formes, du solo aux grandes formations, avec du cinéma, avec du théâtre, avec des arts visuels, avec de la danse. C'était de faire des résidences, de faire des actions artistiques, de faire des performances, des concerts, des spectacles. Et de se dire que finalement, la vie est courte et qu'il faut profiter de chaque moment pour, partager notre envie de musique. Voilà.
Et partager avec tout le monde, parce que dans votre travail s'adresse aux jeunes, voire même aux très jeunes. Hein, on peut peut-être dire, vous avez tout un projet autour du livre de la jungle.
C'est ça, il en faut peu pour être heureux. Je pense que c'est une bonne philosophie pour en ce moment.
Life is about dancing.
C'est ça. Et donc, on va jouer pendant 3 mois au Théâtre de l'Essaillon à Paris avec un comédien.
Un projet que vous aviez déjà fait.
Non, on l'a créé en fait en résidence là au mois de mai, mais à Paris, on ne l'a jamais joué. Donc, on est en résidence depuis 2 ans au Théâtre de Longjumeau. Et donc, tous les ans, on présente un spectacle tout public dans le cadre du Festival de Jazz. Et dans la programmation de l'année, on fait un spectacle jeune public. Donc, on avait commencé avec les Harpistochats, l'adaptation des Aristochats, parce que si je joue de l'harpe aujourd'hui, c'est grâce à Duchesse. Et que, effectivement, vraiment, je suis tombée amoureuse de Duchesse et de la harpe. Et que 50 ans plus tard, je suis toujours autant amoureuse de la harpe que de Duchesse.
Gamme, ouais.
Voilà. Et donc, j'ai emmené mes petits chats sur scène. Et on a fait un spectacle qui était vraiment extraordinaire et très drôle. Et donc, les gens ont adoré. On a joué à l'Essaillon à guichet fermé pendant 3 mois. Et donc là, le livre de la jungle, c'est juste un comédien et moi. On l'avait créé en trio avec le formidable Jean-Baptiste Lout, qui est aussi chanteur, que vous devez connaître, qui est vraiment génial, avec qui on s'est régalé. Mais l'Essaillon avec les voisins, la batterie n'est pas acceptable. Donc on va être juste en duo. Voilà. Et donc là, cette semaine, on a créé une version de Peter Pan avec un comédien extraordinaire qui s'appelle Étienne Luneau, avec Raphaël Olivier, et on espère le reprendre. Mais là, c'est plutôt pour des grandes scènes.
Et puis, vous avez un projet qui aura lieu en mois de mai 2025 au Festival de Jazz de Longjumeau. Vous pouvez peut-être en dire 2 mots, parce que c'est quoi ? C'est un ciné-concert, c'est un projet ?
C'est un ciné-concert qui s'appelle Diversity. Et en fait, j'ai eu la chance d'être résidente de la Villa Albertine l'année dernière à Washington, de faire des recherches sur des femmes cinéastes de l'époque muette, issues des minorités raciales. Et donc, on va présenter ces films muets avec un trio, avec Raphaël Olivier et Baptiste Thiébaud. Et c'est vrai que je pense qu'on va avoir des belles surprises. Il y a un film qui n'a jamais été vu, que j'ai visionné sur des vieilles bobines d'époque.
C'est pas vu le film encore.
Voilà. Et donc, on l'a digitalisé et on va le présenter pour la première fois en France.
Très bien. Excellent. Excellent.
C'est le 16 mai.
Vous partagez, donc, comme on l'a compris, 14 mai. C'est sur
14
mai. Il y a écrit 14 mai. Sur votre site, il y a marqué 14 mai. Donc, voilà. Au théâtre de Longjumeau. Si on revient sur Impression, donc vous aviez le concert hier. Quelles vont être les autres dates? Vous avez d'autres dates à annoncer?
24 avril à Chicago. Piano forte.
Ouais, on y va, Julien?
Allez,
pas de problème.
Moi, j'aimerais bien.
On a pris le billet.
Moi, je pense que ça vaut la peine. Voilà. Après, on a un problème, c'est que les festivals nous disent on n'a pas les moyens de vous accueillir, parce qu'il y a du cinéma, il y a 8 musiciens, il y a 2 techniciens, ça fait beaucoup.
Est-ce que ce projet Impression peut être imaginé dans un format plus réduit ou pas?
On l'a fait en duo avec Tom, parce que c'est vrai qu'on était un peu les deux initiateurs de ce projet. Donc, piano, accordéon, harpe. C'est vrai que maintenant qu'on a eu la grande forme à 8 avec les projections, on a du mal à se... Mais oui, bien sûr qu'on...
Vous n'imagineriez pas d'enregistrer les cordes et voilà.
Là c'est de la musique live. Donc si on le fait, c'est vraiment en duo. Parce que justement, il y a toute une partie du répertoire qui est conçue en temps réel avec des improvisations.
Et vous avez des dates par contre aux États-Unis?
Le 24 avril, au Piano Forte.
C'est ça. Voilà. Hein. Très bien.
On croise les doigts.
Très bien. Julien, ça donne envie. C'est magnifique, mais il manque un saxophone quand même, non?
Moi, je n'ai pas trouvé. Non, je trouvais que ça.
Mais
ça,
non,
ça,
pas
ça,
du tout.
Ça se tient sans saxophone. Hein, la vie peut se faire sans saxophone. Hein.
Absolument. Je présente, mais quand même un petit soprano. Là.
Ah, mais moi, je veux bien, par contre. Bien,
ça se marierait très, très bien. Isabelle, un grand merci. On rappelle le titre de l'album, Impression. Donc, à la fois en hommage aux impressionnistes et à la fois en hommage au célèbre morceau de Coltrane qu'on va entendre, paru chez le label Rebound Echoes. Donc on le trouve très facilement. Il y a un site, hein,
L'autre distribution. Et effectivement, le site, c'est métamorphose.org, je crois.
Oui, mais sinon, il y a le site d'Isabelle Olivier, qui est très très bien, lequel on trouve toute la discographie. Donc merci, un grand merci. Merci aussi, Julien, et bravo pour vos travaux. Comme je le disais en début d'émission, vous avez tous les deux des univers poétiques qui savent un peu nous embarquer avec une vraie cohérence structuré ou déstructuré, mais c'est vraiment très très intéressant et je trouve que ça serait bien quand même que vous jouiez ensemble un jour. Donc on va se quitter avec Impression. Non mais j'essaie de faire naître des vocations quand même.
C'est bien parti.
On va se quitter donc avec Impression. La semaine prochaine, vous retrouvez Lionel Eskenazi avec Hugh Coltmann et Sarah Lanka, que vous connaissez. Et nous, on se retrouvera dans 15 jours pour un hommage à un formidable guitariste qui nous a quittés il y a un an, Sylvain Luc, qui était venu d'ailleurs à l'émission il y a 2 ans, je crois, et avec beaucoup d'invités qui viendront parler en toute amitié de Sylvain Luc, et pas seulement sur le plan musical. Et donc, d'ailleurs, Isabelle, vous êtes la bienvenue. Je crois que vous avez un concert.
Oui, j'ai un concert, mais pour moi, c'est le plus beau souvenir de guitare solo, vraiment de toute ma vie de musicienne. Il avait donné un concert dans un festival, et ce soir-là, c'est vraiment, il s'est passé quelque chose de complètement magique.
Oui, je crois que c'est une sensibilité incroyable.
Et une virtuosité que au service de la musique.
Que au service de la musique, c'est
jamais
ça.
Gratuite.
Absolument, absolument. On va redécouvrir la musique de Sylvain Luc. Merci beaucoup. À suivre Lusitania. Donc, vous retrouvez Lionel Eskenazi la semaine prochaine et nous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Et on vous laisse avec Impression de John Coltrane, revisité par Isabelle Olivier.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.